Bonjour, c'est Sophie Laurence. Je vous invite à partager un moment avec mes invités, les poètes d'hier et d'aujourd'hui. Cette nouvelle émission intitulée « Les poèmes du lundi » aura lieu chaque premier lundi du mois de 17h à 17h50 sur fréquence Mistral 99.3. Aujourd'hui, c'est l'arbre poème, l'arbre muse, un arbre aussi bien féminin que masculin. Oui, c'est aussi l'ami nourricier. L'arbre, quand il est naturel, mort naturel, il meurt debout. D'ailleurs, il ne marche pas, il avance. Nous allons dire quelques mots de la plus vieille forêt fossile du monde qui a été trouvée il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, l'année dernière, où ils ont fait des recherches très, très poussées. Ils ont trouvé dans des roches de grès des traces de plantes et surtout des arbres. Donc, ces arbres, ils ont essayé de les classer, mais au début, voilà. Donc, il paraît qu'il y a d'autres forêts fossiles, mais celle-là, elle est particulière. Elle se trouve dans une région américaine, au nord-est des États-Unis, dans la forêt de Gilboa. Enfin, c'est un nom que je crois qu'il n'est plus usité aujourd'hui. Donc, dans cette forêt fossile, il a été découvert, donc, la forêt fossile, il y a 400 millions d'années, c'est la période où apparaissent les premiers arbres. C'est une période de turbulence climatique. Une période où la concentration de gaz carbonique, le dioxyde de carbone, diminue considérablement dans l'atmosphère. Une période d'extinction massive des espèces. Sur ce site de Gilboa, les extraordinaires blocs de grès qui ont été découverts durant les années 1920 contiennent des souches fossilisées des arbres les plus anciens qui soient connus. Et 100 millions d'années plus tôt, les vestiges de la forêt de Gilboa, découverte au nord-est des États-Unis, suggèrent qu'il n'y avait encore qu'un seul type d'arbre, une simplicité originelle, une pauvreté originelle dont aurait émergé beaucoup plus tard la richesse et la complexité. Mais il s'agit d'une illusion. Et les forêts perdues qui émergent du passé ne cessent de révéler leurs secrets. En 2010, pendant des travaux réalisés dans la Grande Carrière, d'autres fossiles d'arbres sont découverts dans une vaste étendue de sédiments enfouis dans le sol de l'ancienne forêt. Il y avait d'ailleurs, ils ont étudié en 2012, ils ont publié cette recherche, trois types très différents d'arbres aujourd'hui disparus coexistaient dans cette forêt et occupaient chacun un étage différent, chacune enfin. Donc c'était des arbres fougères et en dessous, bon après il y avait un arbre en dessous de ces arbres fougères et puis en dessous l'arbre le plus surprenant de cette forêt. Ce sont des arbres dont la particularité d'être des arbres dont le tronc poussait sous terre, sous la surface du sol, horizontalement, émettant des branches horizontales souterraines, des rhizomes dont la longueur dépassait 4 mètres. Des branches horizontales souterraines d'où naissaient par endroits des racines, et où naissaient à d'autres endroits des branches qui traversaient la surface du sol et s'élevaient verticalement jusqu'à une hauteur d'un mètre, à la base des arbres qui poussaient en hauteur dans la forêt, grimpant probablement au long du tronc de ces arbres et interagissant avec eux. Donc, ces arbres ont disparu aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses, mais il y a une histoire de gaz là-dedans. Ça nous concerne beaucoup aujourd'hui. On en parle beaucoup de ce gaz. Donc, cette découverte conforte une hypothèse proposée il y a près de 10 ans, selon laquelle la propagation des plantes constituées de bois n'a peut-être pas eu de lien, au début du moins, avec un effet du bois dans le soutien mécanique du tronc à mesure que les arbres poussaient de plus en plus haut. Le bois aurait eu pour effet une facilitation de la circulation des fluides et des gaz à l'intérieur des plantes. Une facilitation qui aurait pu compenser dans les premières plantes à bois les problèmes causés il y a un peu plus de 400 millions d'années par la forte diminution dans l'atmosphère de la quantité de gaz carbonique dont les arbres tirent leur énergie. Voilà. Ce n'est que plus tard que le bois deviendrait ce constituant évident pour nous aujourd'hui, des troncs et des branches des arbres qui s'élancent vers le ciel et qui leur permet de résister à la pesanteur en leur donnant leur extraordinaire solidité. Bon, c'est extrait d'un livre merveilleux que je viens de me procurer, qui est écrit par Jean-Claude Amezen, extraordinaire savant, que l'on entend d'ailleurs tous les samedis matins de 11 à 12 sur France Inter. Et je vous assure, écoutez-le, c'est merveilleux. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de dire quelques extraits de son livre qui est fantastique. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer à une légende qui est contée par les bergers de Roumanie. Parce qu'il y a beaucoup de légendes sur le premier arbre. Et il parle d'un grand arbre unique, un seul, et qui avait poussé en-dessus de la montagne. Et les hommes en sont sortis de cet arbre. Voilà, on est tous nés d'un arbre unique. Et oui, très ancienne et secrète à entendre. Lorsqu'il parle à travers le poème de Jules Supervielle. Le premier arbre. C'était lors de mon premier arbre. J'avais beau le sentir en moi, il me surprit par tant de branches. Il était arbre mille fois. Moi qui suis tout ce que je forme, je ne me savais pas feuillu. Voilà que je donnais de l'ombre et j'avais des oiseaux dessus. Je cachais ma sève divine dans ce fût qui montait au ciel, mais j'étais pris par la racine comme un piège naturel. C'était lors de mon premier arbre. L'homme s'assit sous le feuillage, si tendre d'être si nouveau. Était-ce un chêne ou bien un orme ? C'est loin, je ne sais pas trop, mais je sais bien qu'il plut à l'homme qui s'endormit les yeux en joie pour y rêver d'un petit bois. De grands arbres nés centenaires et 300 cerfs la parcouraient avec leurs biches déjà mères. Il croyait depuis très longtemps l'habiter et la reconnaître. Les six corps et le bramement, non loin de fin encore à naître, ils avaient à peine jailli plus qu'il ne fallait d'espérance. Ils étaient lourds de souvenirs qui dans les miens prenaient naissance. D'un coup, je fis chêne, sapin, beaucoup d'écureuils pour les cimes, l'enfant qui cherche son chemin et le bûcheron qui l'indique. Je cachai de mon mieux le ciel pour ses distances malaisées, mais je le redonnai pour tel dans les oiseaux et la rosée. Jules Supervielle. Donc, c'est cet arbre qui parle, n'est-ce pas? Mais c'est un arbre d'aujourd'hui, parce que les arbres d'autrefois, ils ne faisaient pas d'ombre, puisqu'ils n'avaient pas de feuilles. Très longtemps, les feuilles sont venues plus tard. Eh bien, nous allons donc... Le cœur des cèdres du Liban. C'est un petit poème d'Apollinaire. C'est un tout petit cœur à plusieurs voix, bien sûr. Vous le savez, oh nuit, dont nos feuilles avides pompent les frais baisers et les perles humides. Dites, si nous avons des sens dont n'est douée aucune créature, qui s'empare d'ici de toute la nature, qui respire sans lèvres et contemple sans yeux, qui sentent les saisons avant qu'elles éclosent, des sens qui palpent l'air et qui le décomposent d'une immortelle vie agent mystérieux. Les cèdres du Liban, de Lamartine. D'ailleurs, les troncs des chênes sont devenus des bateaux. Et on les voit, ces bateaux, transporter les forêts, les troncs de ces arbres pour un autre destin. Aujourd'hui aussi, on le voit sur des camions. On les voit passer sur des gros camions tous les jours. D'ailleurs, je vois dans cette région des Alpes de Haute-Provence les chênes disparaître. Ils sont coupés par coupe claire. Et c'est des chênes jeunes, parce que les gros chênes, il n'y en a plus. Enfin, moi, je me suis battue pour en sauver trois qui ont plus de 500 ans. Et ils sont bien plus grands que tous les chênes qu'on trouve ici aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ces arbres dont parlent les poètes, ce n'est pas les mêmes. Ouais, il y a des voix secrètes, voilà. En scène, c'était tout à fait comme ça qu'ils sentent les choses. Et nous aussi, nous les sentons. Hein. Alors, nous avons aussi un poème de Guillaume Apollinaire sur les sapins. Les sapins, bonnets pointus, de longues robes revêtues, comme des astrologues, saluent leurs frères abattus, des bateaux qui sur le Rhin voguent. Dans les sept arts endoctrinés par les vieux sapins, leurs aînés, qui sont de grands poètes, ils ne se savent prédestinés à briller plus que des planètes. À briller doucement changés, en étoiles et enneigées, au Noël bienheureuse, faites des sapins ensongés aux longues branches langoureuses. Les sapins, beaux musiciens, chantent des Noëls anciens au vent des soirs d'automne ou bien graves magiciens. Incantent le ciel quand il tonne. Des rangées de blancs chérubins remplacent l'hiver les sapins et balancent leurs ailes. L'été, ce sont de grands rabbins ou bien de vieilles demoiselles. Sapins, médecins, divagants, ils vont offrant leurs bons augans. Dans la montagne accouche, de temps en temps, sous l'ouragan, un vieux sapin geint et se couche. Celui-là n'est pas mort debout. C'est vrai que... Mais pour se coucher, il faut vraiment, vraiment qu'il soit vieux. Il y a plusieurs siècles, Ronsard s'adresse au bûcheron. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce? Sacrilège meurtrier, si on pend un voleur pour piller un butin de bien peu de valeur, combien de feu, de fer, de mort et de détresse méritais-tu, méchant, pour tuer nos déesses? Forêt, haute maison des oiseaux bocagers, plus le cerf solitaire et les chevreuils légers ne péteront sous ton ombre et ta verte crinière, plus du soleil d'été ne rompra la lumière. Plus l'amoureux pasteur sur un tronc adossé, enflant son flageolet à quatre trous percés, son matin à ses pieds, à son flanc la houlette, ne dira plus l'ardeur de sa belle Jeannette, tout deviendra muet. Écho sera sans voix. Tu deviendras campagne, et en lieu de tes bois, dans l'ombrage incertain lentement se remue, tu sentiras le soc, le coutre et la charrue. Tu perdras ton silence et satyres et pans, et plus le cerf chez toi ne cachera ses fangs. Adieu, vieille forêt! Le jouet de Zéphyr, où premier j'accordais les langues de ma lyre, où premier j'entendis les flèches résonner, d'Apollon qui me vint tout le cœur étonné, où premier, admirant la belle Calliope, je devins amoureux de sa neuvaine trope quand sa main sur le front sans rose me jeta et de son propre lait euterpe m'allaita. Adieu, vieille forêt! Adieu, teste sacrée de tableaux et de fleurs en tout temps reversés. Maintenant le dédain des passants altérés qui brûlés en été des rayons éthérés sans plus trouver le frais de tes douces verdures accusent tes meurtriers et leur disent injures. Mais que l'homme est malheureux qui au monde se fie. Oh Dieu! Que véritable est la philosophie qui dit que toute chose à la fin périra, qu'en changeant de forme un autre vêtira. De tremper la vallée un jour sera montagne, et la cime d'Athos une large campagne. Neptune, quelquefois de blé, sera couvert. La matière de se demeure et la forme se perd. Ouais. Vous voyez, c'est pas d'actualité, ça.
Si, si, c'est tout à fait d'actualité, Sophie.
Oui, c'est... Alors ça, c'était Ronsard. Ronsard. Alors, ce conte de bûcheron, en Afrique aussi, il existe. Le bûcheron africain, quand il attaque un arbre... Je l'ai entendu, ça, j'ai entendu un bûcheron chanter comme ça. À chaque coup qu'il donnait, il rythmait un chant et il disait à l'arbre, « Excuse-moi, pardonne-moi, je ne le fais pas exprès, je suis obligé, parce que voilà. » Et il racontait toute la misère, sa misère de bûcheron dans l'Afrique, c'est-à-dire un esclave. C'est un très, très beau chant. Je l'ai entendu qu'une fois, bien sûr, parce que je m'occupais, à un moment donné, d'envoyer... Des textes en Afrique à la radio. Là, c'était à Paris, je me rappelle. C'était vraiment... Donc, c'est cette espèce de culpabilité que l'homme ressent quand il coupe un arbre. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps de chanter puisque c'est des machines ou des grosses mâchoires qui, en une heure, enlèvent 1200 arbres au Canada. Donc, vous voulez chanter où? Il n'y a plus possibilité de chanter. Alors, nous allons... parler de cette toujours Robert Desnos qui raconte lui l'histoire d'une feuille, toute petite feuille. Oui, il était une feuille avec ses lignes, lignes de vie, lignes de chance, lignes de cœur. Il était une branche au bout de la feuille, ligne fourchue, signe de vie, signe de chance, signe de cœur. Il était un arbre au bout de la branche, un arbre digne de vie, digne de chance, digne de cœur. Cœur gravé, percé, transpercé, un arbre que nul jamais ne vit. Il était des racines au bout de l'arbre. Racines, vigne de vie, vigne de chance, vigne de cœur. Au bout des racines, il était la terre tout court, la terre toute ronde, la terre toute seule au travers du ciel, la terre. Robert Desnos. D'ailleurs, nous avons aussi un autre poète, c'est l'arbre de Émile Verhaeren. J'aime beaucoup ce poète. Donc, l'arbre. Mais en octobre, quand l'or triomphe en son feuillage, mes pas larges encore, quoique lourds et lassés, souvent ont dirigé leur long pèlerinage vers cet arbre d'automne et de vent traversé, comme un géant brasier de feuilles et de flammes. Il se dressait tranquillement sous le ciel bleu. Il semblait habité par un million d'âmes qui doucement chantaient en son branchage creux. J'allais vers lui, les yeux emplis par la lumière. Je le touchais avec mes doigts, avec mes mains. Je le sentais bouger jusqu'au fond de la terre d'après un mouvement énorme et surhumain. Et j'appuyais sur lui ma poitrine brutale avec un tel amour, une telle ferveur que son rythme profond et sa force totale passaient en moi et pénétraient jusqu'à mon cœur. Alors, j'étais mêlée à sa belle vie ample. Je m'attachais à lui comme à un de ses rameaux. Il se plantait dans la splendeur comme un exemple. J'aimais plus ardemment le sol, les bois, les eaux, la plaine immense et nue où les nuages passent. J'étais armée de fermeté contre le sort. Mes bras auraient voulu tenir en eux l'espace. Mes muscles et mes nerfs rendaient léger mon corps. Et je criais, la force est sainte. Il faut que l'homme imprime son empreinte violemment sur ses desseins hardis. Elle est celle qui tient les clés des paradis et le large poing en fait tourner les portes. Et je baisais le tronc noueux, éperdument, et quand le soir se détachait du firmament, je me perdais dans la campagne morte, marchant droit devant moi, vers n'importe où, avec des cris jaillis du fond de mon cœur fou. Voilà, et Émile Verhaeren, il a écrit de très, très beaux poèmes. Surtout, on sent les pays du Nord. Hein. Donc, il y a aussi cet amour des humains. Il y a cette phrase dans Phèdre de Racine que j'ai jouée, où elle arrive au soleil, elle va mourir. Elle sait qu'elle va mourir, mais elle est complètement épuisée. Elle est possédée par un amour interdit. Et elle dit, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Et alors elle se lâche comme ça, elle dit, Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts ? Voilà, c'est besoin de... Tellement elle brûle en elle-même. Donc, c'est toujours cette recherche vers l'arbre. L'homme, il se console. C'est un arbre. L'arbre est ami. Des fois, il est dangereux. Hein? Des fois, il est dangereux. Surtout s'il y a une branche qui vous tombe dessus. Voilà. Donc, Alors, il y a un autre poète qui s'appelle Joseph Bédier, lui qui évoque à son tour une autre forêt, la forêt de la légende. Deux personnages âgés, amoureux encore, et il s'agit de Tristan et d'Iseult. Ils sont très vieux, ils sont toujours poursuivis par les barons, tout en étant donc au fond de la forêt sauvage. Ouais, au fond de la forêt sauvage, à grands ahans, comme des bêtes traquées, ils errent et rarement osent revenir le soir au gîte de la veille. Ils ne mangent que la chair des fauves et regrettent le goût du sel. Leurs visages amaigris se font blême, leurs vêtements tombent en haillons, déchirés par les ronces. Ils s'aiment, ils ne souffrent pas. Un jour, comme ils parcouraient ces grands bois qui n'avaient jamais été abattus, ils arrivèrent par aventure à l'ermitage du frère Ogrin. Au soleil, sous un bois léger d'érable, auprès de sa chapelle, le vieil homme, appuyé sur sa béquille, allait à pas menus. Sire Tristan, s'écria-t-il, sachez quel grand serment ont juré les hommes de Cornouailles. Tous les barons ont juré de vous livrer, mort ou vif. Repens-toi, Tristan, car celui qui vit dans le péché sans repentir est un mort. Non. « Je vis et ne me repens pas. Nous retournons à la forêt qui nous protège et qui nous garde. Viens, Iseult, ami. » Ils se prirent par les mains, ils entrèrent dans les hautes herbes et les bruyères. Les arbres refermèrent sur eux leurs branchages. Ils disparurent derrière les frondaisons. Il y a aussi la forêt de Pierre-Louis. Pierre-Louis,
oui.
C'est lui qui dit que, il parle, voilà, les arbres des forêts sont des femmes très belles, dont l'invisible corps, sous l'écorce, est vivant. La plus pure eau du ciel les abreuve, et le vent, en séchant leurs cheveux, les couronne d'ombelles. Leur front n'est pas chargé de la tour des cybelles. L'ombre seule des fleurs, sur leur regard mouvant, retombe, et le long de leurs bras se poursuivant, tourne les lierres verts qu'en pourpre les rubelles. Les arbres des forêts sont des femmes debout, qui le jour porte l'aigle et la nuit le hibou, puis les regarde fuir sur la terre inconnue. La rapide espérance et le rêve incertain s'envolent tour à tour de leur épaule nue, et la captive en fleurs s'enracine au destin. Alors à propos de femmes et de forêts, il y a une histoire qui s'appelle... Enfin, c'est une histoire des... Comment ils s'appellent, c'est les Bichenoï. Je ne sais pas si vous avez vu des documentaires sur les Bichenoï.
Non, qu'est-ce que
qui
c'est?
Qui habitent le Rajasthan. C'est une tribu indienne qui ne tue aucun animal, qui ne mange aucun animal. Et donc, ils les protègent depuis des siècles. C'est un grand... Comment on appelle ça? Un de leurs maîtres qui leur a donné 29 règles à respecter, comme les 10 commandements. Ils le pratiquent aujourd'hui. J'ai vu un documentaire hier, pas plus tard qu'hier. Comment un animal, tous les villages, peu à peu, ils arrivent à les contaminer, parce qu'ils sont dans une... On leur a donné à vivre dans un parc national, et ils en sont les gardiens. Mais en même temps, il y a beaucoup de braconniers. Et ils essaient d'éduquer. Alors beaucoup de maintenant, quand il y a des dans les villages, quand ils trouvent une gazelle, notamment, surtout les gazelles, blessées, mourante, ils se téléphonent avec le portable et ils vont chercher la gazelle et ils l'amènent à un hôpital qu'ils ont créé. C'est magnifique et c'est des gens extraordinaires. De tout, ils protègent la nature complètement, mais complètement. Alors là, vraiment... Alors, il y a une légende, mais une légende qui ne... C'est pas une légende, c'est une histoire vraie. Une histoire vraie, c'est-à-dire 300 femmes. Il y avait un roi, il voulait couper tous les arbres. Donc, il y a 300 femmes qui s'étaient liées aux arbres parce qu'ils devaient être abattus, bien sûr. 300 femmes liées. D'ailleurs, il y a des dessins, on retrouve dans les archives, des femmes très belles, des jeunes et des vieilles. Parce qu'elles sont belles, ces femmes là-bas. Elles sont très belles. Elles ont des bijoux qui leur passent de l'oreille au nez. Elles sont magnifiques. Elles ont des toilettes aussi très belles. Donc, eh ben, elles ont été massacrées. On leur a toutes coupé la tête. 300 têtes par terre, parmi les branches et les troncs, disloquées. Aussi bien l'arbre que la hache, hein, aussi bien tout était. Donc c'était des femmes. Et aujourd'hui, cette tribu du Rajasthan ne tue aucun animal. Voilà, c'était pour eux, la vie est sacrée à préserver en toute urgence. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. C'est des choses étonnantes. Il y a des animaux partout qui baladent librement, ils le respectent, ils laissent l'animal mourir de vieillesse. On ne l'extermine pas. Comme aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, on le pratique beaucoup. Bon, voilà, je voulais vous raconter cette histoire des 300 femmes. Alors, j'ai.
Alors moi je rappelle que vous êtes sur Fréquence Mistral 99.3 en compagnie de Sophie Laurence qui nous parle bien sûr des arbres et des poètes qui ont écrit sur les arbres. Et c'est cette émission mensuelle, les poèmes du lundi, chaque premier lundi du mois.
Alors je vais vous raconter une histoire d'arbres et d'un homme qui s'appelle, c'est d'ailleurs un poète, Nazim Hikmet. J'avais fait déjà une émission sur son œuvre, et on pourrait en faire plusieurs, parce que c'est tellement riche. Ça s'appelle « L'histoire du noyer et de Younous le boiteux ». Nous avons ici un ami. Il est du village de Karaiak de Tcherkesh. Il y a des choses cachées en lui, comme dans les grands bouquins. Il a de l'intérêt pour les gens éclairés, pour le journal de la radio et pour les devinettes. Son nom, Younous. Il allume notre feu et nous apporte de l'eau. Nous parlons avec lui des arbres et des jours. Ouh, pour sûr qu'ils sont à venir, les plus beaux jours à vivre. En attendant, il y a dans nos parlottes la tristesse d'un noyer coupé et vendu. Nous le connaissons, son noyer. Il était dans la cour à gauche de la porte. Younous avait 6 ans quand il est tombé d'une branche du noyer. De là, sa jambe qui boite. Les bœufs aiment les boiteux, car les boiteux pensent tout le temps. Ils ont bon cœur, car ils marchent lentement. Les bœufs aiment les boiteux. Les noyers n'aiment pas les boiteux. Ils ne peuvent pas sauter jusqu'aux fruits. Ils ne peuvent pas monter aux arbres et secouer leurs branches. Les noyers n'aiment pas les boiteux. Drôle d'histoire que l'amour. Tous ceux qui ne sont pas aimés ne se jettent pas nécessairement au ruisseau. Les hommes sont des êtres ingénieux. Les hommes savent aimer sans être aimés. Drôle d'histoire que l'amour. Drôle d'histoire que celle du noyer de Younous le boiteux. Il s'est tombé, s'est noyé en septembre, ses feuilles restaient vertes jusqu'en novembre, et quand par-dessus la route de Tcherkesh, l'heure de la prière du matin arrivait reluisante, ses branches se réveillaient plus tôt que les femmes. Au soleil, son ombre était fameuse, au vent, il parlait tout seul. Et Younous, tous les matins, passait par-dessous. Penser pour Younous, ce n'était ni une affaire sacrée, ni un malheur, ni un bonheur. Et la mort était pour Younous un village dont, pour sûr, on ne revenait pas, mais sur lequel on n'avait rien à penser. Il laissait tomber ses noix en septembre, ses veilles restaient vertes jusqu'en novembre, ses racines allaient loin sous la terre, ses branches regardaient une housse en haut, il était large et haut tant qu'il voulait, quand tu te mettais dessous la nuit, tu ne voyais pas les étoiles. Younous ne savait pas pourquoi les étoiles s'éteignaient le jour, que la terre était ronde et qu'elle tournait autour du soleil. Et tout cela, c'est nous qui lui avons parlé de tout cela. Il n'est pas resté bouche bée. Il laissait tomber ses noix en septembre, ses feuilles restent vertes jusqu'en novembre. On ne pouvait pas étreindre son tronc en se donnant la main à trois. Et Younous, tous les matins, passait par-dessous. Des musulmans de la Chine, des rhinocéros à la corne sur le nez et des microbes qui vivent par millions dans une goutte, Younous n'avait aucune idée. Le jour où il a pris tout cela de nous, il n'est pas resté bouche bée. Il laissait tomber ses noix en septembre. Au soleil, son ombre était fameuse. Au vent, il parlait tout seul. Ses feuilles restent vertes jusqu'en novembre. Un jour, pendant que Younous allumait notre feu, tout en nous donnant de l'eau, nous lui avons dit « Nous sommes tes serviteurs. Younous, tu es notre maître. » Il laissait tomber ses noix en septembre. Au vent, il parlait tout seul. Il était large et haut tant qu'il voulait. On ne pouvait pas l'étreindre en se donnant la main à trois. Et quand tu te mettais dessous la nuit, tu ne voyais pas les étoiles. La nuit coulait sur lui comme de l'eau. Ses racines allaient loin sous la terre. Ses branches regardaient Younous d'en haut. Ouais. Le boulot est dur au village, pour sûr, d'abord ça t'écrase le corps. Assieds-toi par terre et regarde de tous les côtés. Sait-on dans quel repère le malheur est aux aguets? Il te frappe, pour sûr. Pas moyen d'y échapper. Le malheur a frappé Younous en plein cœur. Nous n'avons pas vécu en ce monde. Nous nous en allons comme nous sommes venus. Istanbul est bigrement beau, dit-on, le destin ne nous a pas permis d'aller voir, mais sait-on pourquoi 30 maisons sur 60 n'ont pas de moutons? Yanis n'avait pas de moutons, Younous, non. Les pierres que tu jettes ne frappent pas l'oiseau que tu désires. Le monde va désormais dans le train. Le monde ne reste plus sur les cornes du bœuf. Le bœuf pour nous, c'est les mains et les pieds. C'est dur de vendre son bœuf. On a vendu le bœuf de Younous. Mais la fin des routes est proche, pour sûr. Tout ce qui se passe de nos jours, ça dépasse la raison. La terre n'est plus que savon, ça vous glisse des mains. Toute créature habite quelque part. Le loup n'habite nulle part quand la terre te glisse des mains. Tu deviens un loup. La terre de Younous lui a glissé des mains. Il laissait tomber ses noix en septembre. Ses feuilles restaient vertes jusqu'en novembre. Au soleil, son ombre était fameuse. Il était large et haut tant qu'il voulait. Younous pense à lui sans cesse, puis il sombre, puis il s'en souvient. Ses racines allaient loin dans la terre, il ne demandait, il n'exigeait rien, il parlait tout seul dans le vent. La solitude a mis un bon coup à Younous. Il finit par répandre sa sueur sur la terre des autres. De peur que son noyer disparaisse dans la nuit, il le surveillait jusqu'à l'aube sans dormir. Ses racines allaient loin dans la terre. Ses branches regardaient Younous d'en haut. Du noyer, on fait des consoles. Qu'est-ce qu'on peut faire de Younous le boiteux? Les grands froids arrivent. Abrite-toi si tu peux. Du noyer, on fait des consoles. Tu ne pourras pas tenir le coup, vent en noyer, Younous. Gens de bien ne tissent pas de kilim pour ceux qui n'ont rien. Tant pis pour le noyer, voyant Younous. Hein? Tant pis pour toi. Dans les grands froids, les loups sont affamés. Du noyer, on fit des consoles. La raison vient tard à la tête du Turc. Vend ton noyer, Younous. Gens de bien ne tissent pas de kilim pour ceux qui n'ont rien. Tant pis pour le noyer, Younous, tant pis pour toi. Pour le loup sans chaume, c'était un chaume. Du noyer, on fait des consoles. Il était mi-arbre, mi-homme. Vend ton noyer, Younous. Comme mort, tout nu, il s'étendit sur la neige. Du noyer, on fait des consoles. On lui coupa bras et jambes. Vend ton noyer, Younous. Gens de bien ne tissent pas de kilim pour ceux qui n'ont rien. Tant pis pour le noyer. « Yé, Younous, tant pis pour toi. » Le matin appartient à quelqu'un. Le soleil ne reste pas toujours derrière les nuages. Les plus beaux jours à vivre sont pour sûr à venir. En attendant, il y a dans nos parlottes la tristesse d'un noyer coupé et vendu. Alors nous, bien sûr, c'est une histoire merveilleusement écrite par Nazim Hikmet et cette espèce d'alternance comme ça, ces rythmes, c'est magnifique. Ça peut se chanter, d'ailleurs, ça peut se chanter en même temps comme une complainte. D'ailleurs, Younous, c'est un personnage magnifique, c'est un personnage d'amour. Un autre personnage d'amour. Alors, nous avons quelques vers, quatre vers de Baudelaire. Lui, c'est pas pareil. Lui, il parle de la forêt effrayante. Grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales, vous hurlez comme l'orgue. Et dans nos cœurs maudits, chambre d'éternel deuil où vibrent de vieux râles, répondent les échos de vos déprofondis. Baudelaire. Ça va bien avec l'arbre qui meurt. Donc, nous allons entendre bientôt. Alors aussi pour Verlaine, hein, qui est de la même époque, l'ombre des arbres dans la rivière embrumée meurt comme de la fumée, tandis qu'en l'air, parmi les ramures réelles, se plaignent les tourterelles. Combien, ô voyageur, ce paysage blême te mira blême toi-même, et que triste pleurait dans les hautes feuillées tes espérances noyées. Mon portrait. Maurice Fombeur. Je suis de bois, mes mains et mon visage. De bois je suis, oui, de dur cœur de chêne, œuvre gauche d'un sculpteur malhabile, mais les forêts frémissent dans mon cœur. Je suis léger jusqu'au bout de mes branches, mal équarré du torse et lourd de tronc, mais des oiseaux y peuplent mes dimanches, les vents y font virer leurs escadrons. Arbre perdu dans les futaies humaines où la cognée bat parfois sourdement, arbre pleurant ses lyres incertaines, arbre immobile en la forêt dormant, écartelé d'incessantes tempêtes, indifférent au souffle chaud des bêtes, aveugle et sourd aux sources dans la mousse, déjà prêt pour sa chute ténébreuse, déjà paré pour son éternité. Et le poète parle de son portrait. C'est l'arbre qui parle, enfin, mais en même temps, c'est le poète. C'est très étonnant. Les arbres blancs, les arbres noirs, sont plus jeunes que la nature. Il faut, pour retrouver ce hasard de naissance, vieillir. C'est Paul Éluard qui a dit ça. Alors, c'est une histoire de trois sœurs. C'est Maeterlinck, un grand poète aussi, qui a écrit de très belles pièces de théâtre, très fantastiques. Les trois sœurs ont voulu mourir. Elles ont mis leur couronne d'or et sont allées chercher leur mort. S'en sont allées vers la forêt. « Forêt, donnez-nous notre mort. Voici nos trois couronnes d'or. » La forêt se mit à sourire et leur donna 12 baisers qui leur montrèrent l'avenir. Ouais, c'est bien une forêt qui vous protège comme ça. Alors là, on va passer à l'arbre mortel. Alors, c'est un poète que j'ai eu le plaisir de rencontrer parce que je suis allée chez lui et j'ai parlé longtemps avec lui parce que j'ai monté une pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, qu'il avait transcrite d'une façon très remarquable. Voilà, donc c'était un personnage assez impressionnant. Donc, il a écrit L'arbre mortel parce qu'il était très tragique, enfin, il avait beaucoup le sens de ça. Un homme était parvenu sous un arbre dont la fraîcheur profonde appelait le pays désert, tandis qu'un ange à tire-d'aile s'envolait. L'homme, sauvé du soleil, écoutait murmurer les immenses familles de choses vertes et noires, tellement serrées, qui répandaient de vastes odeurs de mémoire. Mais comme il s'appuyait au tronc, l'arbre se ferma. À présent, tout ce qui le liait, la feuille à l'autre feuille, était gémissement, agitation. Les racines se convulsaient dans le désir. L'arbre tuait le voyageur. Le voyageur mit alors ses deux mains sur sa poitrine et la lutte recommença. Et l'ange revint. Le combat obscur incertain s'est déroulé dans la confusion. Oh. Alors, nous allons maintenant faire parler d'Henri Michaud. On a fait une émission il n'y a pas longtemps. Ah, lui, alors, ce qu'il parle des arbres d'une façon adorable. L'arbre qui bat des branches, je ne l'ai pas vu, mais on m'en a beaucoup parlé. Il ne peut en battre que les 15 premiers jours du printemps, après lesquels la souplesse vient à lui manquer, et il demeure indifférent et posé comme les autres arbres, bourrés comme ils sont de cellulose et d'autres duretés incompatibles avec l'expression et la danse. Henri Michaud. Et dernier poème de Francis Ponge. Les arbres se défont à l'intérieur d'une sphère de brouillard. Dans le brouillard qui entoure les arbres, les feuilles leur sont dérobées, qui déjà, décontenancé par une lente oxydation et mortifié par le retrait de la sève au profit des fleurs et fruits, depuis les grosses chaleurs d'août tenaient moins à eux. Dans l'écorce des rigoles verticales se creusent par où l'humidité jusqu'au sol est conduite à se désintéresser des parties vives du tronc. Les fleurs sont dispersées, les fruits sont déposés. Depuis le plus jeune âge, la résignation de leur qualité vive et de partie de leur corps est devenue pour les arbres un exercice familier. Jean de La Fontaine. Et souvent, pour divertir leur ardeur mutuelle, ils dansaient aux chansons de nymphes entourées. Combien de fois la lune, à leurs pas éclairés, et couvrant de ses raies les mailles d'une prairie, les a vus à l'envi fouler l'herbe fleurie. Combien de fois le jour a vu les autres dieux, complices des larcins de ce couple amoureux. Mais n'entreprenons point d'oser le voile sombre de ces plaisirs amis du silence et de l'ombre. Ah, ils sont coquins, ceux-là. Il y a beaucoup de poèmes extraordinaires. Il y a aussi une chose très jolie, le peuplier. J'aime beaucoup le peuplier parce qu'il fait une musique lui aussi. De ses frissons de veuve, le peuplier avoue l'indécence du ciel. Son écorce, une main de lumière la charge. De cette nudité d'où les femmes regardent leur corps suivre sans hâte les rives d'un baiser. Sa voix l'était la foule dans le feu de ses orges, mais l'hiver éleva son chemin de légende, assignant par l'écho d'une branche cassée un destin d'ossement aux œuvres du silence.
C'est deux.
De Paul Chollot. Eh bien, nous allons terminer. Nous avons terminé de parler des arbres. Il y en a encore beaucoup à raconter sur les arbres. Et aujourd'hui, je crois qu'on doit les protéger de plus en plus, malgré qu'on dise qu'on a beaucoup de forêts. Mais ce n'est pas des forêts naturelles, c'est des forêts. Il faut essayer d'avoir des forêts diversifiées où il y a toutes les essences, où en automne on voit toutes sortes de couleurs. Maintenant, en automne, c'est uniforme, les arbres. Donc il faut les protéger.
On va se quitter, Sophie Laurence, pour ces poèmes du lundi du mois de mai. Merci pour ce beau cadeau de poèmes sur les arbres, avec tous ces différents poètes. Merci à Jean-Marc pour la régie. Et puis, on se retrouve le 3 juin, le premier lundi du mois de juin, de 17h à 18h. Et là, eh bien, pour se quitter, on écoute une musique proposée par Jean-Marc qui s'appelle « Kunandi ». Et c'est de Rokia Traoré. Bonne soirée à tous. Au revoir.
C'est très belle musique.
Oh, Kunandi, son nema, kanaban nema, kanaban oma, son oma, la tigade oke ala. Obe furo lo wo bo jonina, obe furo lo wo bo dombe ka.